En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Nous reprenons nos travaux, mais avant de donner la parole à M. Neviaski, je dis monsieur, vous n'êtes pas militaire, si ?
Je l'ai été, mais je ne le suis plus.
Bon. Je rappelle à ceux qui n'étaient pas là hier ou qui étaient inattentifs qu'il est entendu que chacun me remettra en temps voulu un texte de sa communication. Et hier, nous sommes convenus que ce serait non pas fin juin, mais plutôt fin septembre. Et que ce qui me paraît un délai raisonnable. Alors, bien entendu, vous êtes autorisé à les envoyer avant, puisqu'il... Bon. Et alors, vous les envoyez, s'il vous plaît, non pas à moi, parce qu'ils seront obligés de transmettre, mais à monsieur, le secrétaire de l'Académie des sciences morales et politiques, monsieur Brûlé. Alors, c'est B-R-U-L-E-Y.
Attendez, juste le temps de...
Oui, oui. Brûlé, B-R-U-L-E-Y, @asmp.fr. Et bon, comme ce n'est pas beaucoup plus cher, vous pouvez l'envoyer également à Kerbrat, qui était là hier et ce matin, K-E-R-B-R-A-T, pareil, @asmp.fr.
ASMP, c'est quoi ?
Académie des sciences morales et politiques.
D'accord.
Kerbrat. K-E-R-B-R-A-T. Oui, envoyez aux deux. Quoi, comme ça. Bien. Monsieur Neviaski, vous avez la parole.
Merci. Voilà. Merci, monsieur le professeur. Donc, je vais vous... parler. Alors, ouais, c'est en bas.
Si vous voulez venir ici, venez.
Non, oui, ça va aller très bien. Donc, de la désertion vue à travers un prisme particulier. Donc, je suis parti d'un texte assez connu, qui est celui-ci. Monsieur le Président, je vous fais cette lettre que vous lirez peut-être si jamais vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Je fermerai ma porte, j'irai sur les chemins. Donc, c'est une chanson qui est bien connue, qui est interprétée par Boris Vian, et qui met donc en scène ce jeune qui a reçu son ordre de mobilisation, mais qui ne se rendra pas à sa convocation. Mais en fait, ce texte qui s'appelle « Le déserteur » ne traite pas de la désertion. C'est en fait un objecteur de conscience ou un insoumis, parce qu'il n'est pas encore militaire. Alors, qu'est-ce que la désertion ? Hier, la désertion était dans le règlement de discipline générale des armées. Aujourd'hui, elle est codifiée dans le Code de la Défense, notamment à l'article 321.2, et déclarer déserteur en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur un territoire de la République et qui s'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement, ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé. Mise en route pour rejoindre une autre formation de rattachement hors du territoire national, ne s'y présente pas, se trouve absent sans autorisation au moment où il départ, etc., etc. Dans le cas 1, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de 6 jours à compter du lendemain du jour de l'absence sans autorisation est constaté, et en temps de guerre, les délais mentionnés au présent article sont réduits aux 2/3. Donc ainsi, la définition de la désertion semble un acte individuel qui découle d'une situation personnelle, mais un tel constat signifie-t-il que sous couvert du choix de déserter ou non, ce phénomène résulte uniquement d'une volonté personnelle exécutée en toute liberté. Autrement dit, dans quelle mesure le groupe, voire un État, peut-il être à l'origine du processus de désertion ? Le loyalisme d'une troupe peut-il être un enjeu au point que cette dernière soit l'objet d'une action subversive et donc d'un combat qui vise à faire capituler l'adversaire précisément sans combattre, et ce combat peut être de grande ampleur. Donc à partir d'un exemple très précis et qui est probablement unique tant par le statut des personnels que par la période de l'histoire, je vais essayer de vous montrer assez rapidement comment de 1933 à 1939 le Reich a favorisé la désertion des légionnaires de nationalité allemande. Le processus était assez simple. La démoralisation repose d'abord sur une volonté politique, qui prenait sa source en Allemagne, sur le territoire national. Mais il était aussi nécessaire d'avoir des agents sur place et de mettre en place tout un réseau et un soutien logistique. Avant de commencer l'exposé en lui-même, je voudrais juste insister sur la fragilité des légionnaires, parce qu'à un moment ou à un autre de leur contrat, ils ont ce qu'on appelle une sorte de dépression qui s'appelle le cafard du légionnaire. Et l'un des légionnaires connus mais inconnus, c'est Ernst Junger, en parle dans Jeux africains, parce que tout comme il a fui sa famille et la vie civile, le légionnaire s'efforce, là je cite Junger, avec une ardeur restée la même de fuir à nouveau. Tous ils ont cherché quelque chose de vague, peut-être un endroit fabuleux, ou bien également l'île de l'oubli, mais voyant aussitôt l'absurdité de leur tentative, le mal du pays s'empare d'eux comme un détraquement de l'esprit. Donc le légionnaire est déçu de sa nouvelle vie, qui ne lui semble pas correspondre finalement à ce qu'il recherche. Il regrette sa vie antérieure, mais il ne peut plus résilier son engagement. Donc il est victime d'une forme de spleen et de découragement qui peut avoir deux issues, le suicide ou la désertion. Donc la désertion résulterait d'un coup de folie, dont le motif et le déclenchement sont variables et diffèrent selon les individus, mais qui exprime de toute façon toujours une souffrance morale, un mal-être, dont l'accumulation n'est plus supportable et il faut partir. Donc cette volonté politique, donc le différent entre la Légion étrangère, donc entre la France et l'Allemagne, est assez ancien, je ne vais pas vous passer tout le portrait. Je voudrais juste, avant la guerre 14, préciser deux faits. Le premier, c'est l'affaire dite de Casablanca, où cinq légionnaires allemands ont tenté de déserter. Ça s'est mal passé. Ils ont brusqué un agent consulaire qui avait l'immunité diplomatique. Ça a fait une crise diplomatique. C'est en septembre 1908. En décembre, donc quelques mois plus tard, 40 légionnaires allemands prennent d'assaut un train à Ensefra et tentent à nouveau de déserter. Et ils n'y parviennent pas. Ça fait une deuxième crise diplomatique. Ça met la Légion étrangère au cœur des sujets en Allemagne. Et il y a une importante campagne qui se fait là-bas en disant que la discipline est inhumaine, qu'il y a des sévices, que c'est illégal, etc., etc. Si bien que Maurice Paléologue, qui est l'ambassadeur de France à Berlin, écrit à Aristide Briand en 1913 qu'il y a deux motifs de déclaration de guerre avec l'Allemagne. D'un côté, il y a l'affaire marocaine et de l'autre, il y a la Légion étrangère. Alors juste après-guerre, l'affaire se complique puisque la France a besoin des Allemands pour reconstruire sa Légion étrangère. Et Lyautey pense, je le cite, qu'il devrait être facile de trouver un recrutement illimité d'Austro-Hongrois allemands attirés par des primes d'engagement parmi les personnels de guerre ou de volontaires des pays occupés. Et quelques jours plus tard, il dit, par un très large appel aux Allemands, aux Autrichiens, parce qu'il lui semble que la situation intérieure de ce pays et la démobilisation de leurs armées devraient pouvoir faciliter de nombreux et immédiats engagements volontaires. Donc alors qu'en 1918, du fait de la guerre, il n'y a pas un seul Allemand, il n'y a plus d'Allemands, ou très peu, à la Légion étrangère, en 1920, à peu près 49% du recrutement est allemand. Dans les unités, on arrive à 41% pour le régiment de marche de la Légion étrangère, mais parfois à 52%, notamment pour le deuxième étranger, et on parle d'Allemands qui ne parlent pas d'Allemands qui ne parlent pas la langue, mais en fait, dans les unités, c'est vécu comme une véritable invasion, puisque à ces gens-là, il faut y adjoindre ceux qui sont devenus polonais, tchèques et autres. Cette influence ne sera pas conjoncturelle, puisqu'en fait, les Allemands vont être le réservoir de légionnaires durant toute l'entre-deux-guerres. Cette source de tension, si elle n'est pas immédiate après la guerre, au fur et à mesure que l'Allemagne retrouve des droits sur la scène internationale, elle augmente, notamment vis-à-vis du traité de Versailles, d'abord à cause de l'article 119, qui est l'article dans lequel l'Allemagne renonce à ses colonies, et en fait, ils assimilent légionnaires et colonies, mais surtout à l'article 179 du traité, qui spécifie que l'Allemagne ne peut pas avoir de troupes à l'extérieur de son territoire national, que les Allemands ne peuvent pas s'enrôler dans des armées étrangères. Donc, normalement, il n'y a plus de légionnaires allemands, mais la France a obtenu d'avoir un alinéa particulier à cet article qui fait que les Allemands peuvent encore s'engager à la Légion étrangère. Donc le phénomène, le processus du Reich, c'est d'isoler les légionnaires allemands. Alors comment ils s'y prennent? D'abord, ils font un contrôle beaucoup plus important, notamment quand les légionnaires rentrent. Parfois, ils rentrent en permission, mais aussi ils rentrent définitivement. ils sont pris en compte, ils sont placés, enfin, ils sont interrogés par la police criminelle, et des agents spécialisés qui se mettent en place, on confisque leurs documents, leurs photos, il y a des interrogatoires. Les Allemands constituent des fichiers qui sont très, très bien faits, et ils arrivent à recouper les informations. À partir de 1935, les Allemands passent systématiquement dans un camp qui s'appelle le camp de Kislau, où ils y séjournent au minimum 6 semaines. Et en fait, en contrôlant les légionnaires, ça leur permet de connaître ceux qui sont encore en service. Et l'objectif, c'est de toucher les familles. Donc le deuxième moyen pour isoler ces légionnaires, c'est de prendre les familles en otage. Donc les familles doivent écrire des lettres. Nous avons, donc les archives se trouvent surtout à Vincennes, nous avons le cas d'un adjudant où sa famille le supplie de rentrer, hein, il écrive « Plus il est regrettable que tu sois parti à la Légion, plus il est bon que tu reviennes, les conditions sont très favorables pour toi, reviens en Allemagne ». Et puis il reçoit par des moyens détournés une autre lettre où on lui dit « Surtout ne reviens pas parce que tu seras emprisonné ». Il y a également un système de représailles qui est mis, donc les frères des légionnaires qui sont partis sont inculpés, les pères se renvoient des usines, ils perdent leurs emplois. Donc l'objectif c'est de couper l'individu de sa famille et de le rendre finalement responsable des malheurs et d'attaquer son moral. L'autre étape, c'est de devoir faire un choix entre la nationalité allemande ou le fait d'être légionnaire. Donc avec le service obligatoire en 1935, les légionnaires qui ne rentrent pas en Allemagne pour pouvoir être soldats se voient infliger des peines de plusieurs mois de prison et des déchéances de leurs droits civiques. Donc à partir de ce moment-là, il y a vraiment un choix qui s'opère. Soit je reste et je me coupe de mon pays, ou soit je rentre. Il y a ensuite une étape que les Allemands appellent l'étape de dénationalisation, qui se fait en deux temps. Le premier temps, c'est au moment de l'Anschluss, où en fait tous les Allemands de l'étranger doivent faire une déclaration de résidence auprès du consulat, et les Allemands Allemands et Autrichiens qui ne font pas cette déclaration perdent le bénéfice de ce que peut leur apporter le consulat. Et puis ensuite, c'est beaucoup plus radical. Il y a un décret qui est pris le 22 février 1939 qui retire la nationalité aux Allemands qui s'engagent en pleine possession de leurs moyens. Donc cette fois-ci, il y a une remise en cause totale dans les esprits. Mais maintenant, il faut réussir à les toucher, pas seulement par les familles. Donc le premier moyen de toucher les agents, c'est d'être présent au sein des unités, donc par la radio. Ça, c'est assez facile, puisqu'en fait, les légionnaires, bien que ce soit interdit, arrivent à suivre la TSF. C'est également l'envoi par les familles de journaux qui permet aux Allemands d'être toujours, de savoir ce qui se passe dans leur pays. Il y a également des tracts qui circulent, parce qu'il y a beaucoup d'Allemands encore au Maroc, notamment au Maroc espagnol. Et au Levant, le général Hunsinger impute au redoublement de la propagande italienne, de la propagande hitlérienne, l'exode massif et pratiquement exclusif des légionnaires. Ces légionnaires se retrouvent également en réunion secrète, spontanée, où les uns et les autres donnent leurs sentiments, ils éclaircissent la situation pour leurs camarades, pour leur détourner de leur engagement. Ensuite, ça c'est une action qui est finalement assez indirecte, il faut une action plus directe. Donc l'action plus directe, elle est menée par des pasteurs. Les pasteurs, là je vais assez vite, mais c'est depuis les années 20, mais à partir de 1935, ils sont récupérés par le régime et ils envoient sous couvert de correspondances religieuses des mots pour regermaniser la troupe. Et apporter le salut de la patrie, donc là je lis, hein, un salut de la patrie et leur démontre qu'ils n'oublient pas leurs citoyens à l'étranger pour lesquels ils gardent toujours un souvenir fidèle. Et l'objectif finalement c'est de leur rappeler que, il faut qu'ils reviennent au pays et qu'ils sont prisonniers d'une institution, donc il faut qu'ils partent. Donc là c'est la lettre, je vais vous lire, c'est quelques lignes d'un pasteur. Je suis heureux d'apprendre que vous espérez rentrer bientôt chez vous. Je crois pouvoir déduire que par votre lettre que vous êtes animé des meilleures intentions pour l'avenir. Mais combien de fois ai-je pu constater que ces intentions, dès qu'on a pu surmonter les premiers obstacles, arrivent à se modifier. Donc ils attisent l'orgueil, ils poussent à déserter, mais ce n'est pas encore suffisant puisqu'il faut quelqu'un sur place quand même. Donc pour ça, ils ont un petit réseau. Je choisis de vous parler juste d'un pasteur qui s'appelle le pasteur Finotto. Donc lui, il demande à rentrer à l'intérieur des unités pour avoir des contacts avec les légionnaires allemands. Ça n'est pas rendu possible par le commandement qui s'en méfie. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Sous couvert de détente spirituelle, il invite les germanophones à son domicile. Et les services de renseignement se rendent compte que, lors de ces réunions, les légionnaires sont surpris, donc ça c'est un compte rendu, de voir au mur de la salle de réception des cartes routières d'Algérie, de Tunisie et du Maroc. Ils sont surpris d'entendre les habitués de ces réunions se répandre en récrimination sur leur vie à la Légion. Ils affirment que le pasteur Finotto ne fait rien pour amener ces découragés au sentiment du devoir. Et en fait, après une enquête, il s'avère que ce pasteur fait du repérage, du regroupement, une regerminisation des légionnaires et qu'il organise leur départ, si bien que ce pasteur est expulsé en 1938. Mais là, nous ne sommes toujours pas dans les unités. Donc pour être encore plus efficace, il faut être dans les unités. Donc au début des années 30, les Allemands ont pris conscience que finalement, ils n'ont pas assez utilisé la Légion étrangère au profit de leur pays. Et le chef des SA, donc Victor von Lutz, écrit à tous les divers commandants de formation, je cite, « La colonne vertébrale des possessions coloniales françaises est constituée par la Légion étrangère, dans laquelle bien des Allemands ont contribué à contenir les mouvements de révolte des peuples colonisés contre leurs oppresseurs. Si, d'une part, la Légion étrangère était démoralisée et devenait peu sûre face aux ordres qu'elle recevrait des Français, si, d'autre part, ses troupes parvenaient à enflammer les populations en faveur de l'Allemagne, le domaine colonial de la France nous appartiendrait un jour. » Et il préconise la création et l'envoi d'agents au sein des unités, en formant des noyaux. Donc il demande de conférer avec les camarades qui sont particulièrement sûrs au sujet d'engagement éventuel dans la Légion étrangère française, afin d'intensifier la propagande sous cet uniforme. Et donc à partir de 1935, mais en fait on s'en rendra compte, en 1936, se créent des cellules nazies dans les régiments. Donc il se livre à un travail de sape. C'est pas forcément un travail de renseignement, puisque ça, en fait, ils arrivent à l'avoir depuis le territoire. C'est plus un travail sur les esprits. Et là, ils sont confrontés à une situation qui n'est pas facile, parce que soit ils vont trop loin, ils se font repérer, ou soit ils vont pas assez loin et ils n'arrivent pas à regermaniser leurs camarades. En tout état de cause, donc je vous passe sur les cellules nazies à l'intérieur des unités, en tout état de cause, la mise en place de cellules de désertion, enfin de filières de désertion, est vitale pour ces cellules, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à exfiltrer leurs agents une fois qu'ils commencent à être opérés pour qu'ils ne soient pas incarcérés. Et la deuxième raison, puisqu'en fait l'idée c'est de démoraliser la troupe, c'est de la faire partir, eh bien, il faut bien pouvoir les évacuer. Donc ils mettent en place des réseaux de désertion. Alors je vous passe aussi sur les méthodes, mais en fait la méthode c'est toujours de discréditer ce que fait la France, donc d'un point de vue politique, puisque ça amène finalement à discréditer les chefs militaires et finalement à se rebeller et à dire que le contrat qu'ils ont signé n'est pas un contrat, n'est pas clair, puisque finalement ils ont été trompés et qu'ils sont ils ont été trahis et qu'ils sont pas dans le camp des vainqueurs. Mais une fois qu'on a mis en place tout cela, il faut encore rentrer. Donc c'est le soutien logistique et la complaisance diplomatique. Donc en fait, il y a deux voies. La première voie, c'est celle de parvenir à un port pour pouvoir partir en bateau. Mais pour ça, il faut avoir un certain nombre d'intelligence et bénéficier d'aide. Donc ici, vous avez une dame qui s'appelle Irène Sievers. C'est une Lettonne qui a été arrêtée en février 1935 à Taza. Un mois auparavant, elle s'était mise de mèche avec un légionnaire et elle lui a proposé de déserter. Comme il n'avait pas de papiers, elle lui a proposé de lui faire des papiers. Alors, le légionnaire, bien sûr, était un agent des services de renseignement. Donc, bien sûr, il a alerté. On lui dit de continuer le processus. Donc, elle lui a trouvé des papiers, des habits, puisqu'en fait, il n'avait pas de tenue civile. Elle a pris le bus avec lui pour déserter. Il a payé 1000 francs, donc en fait le bus, ça faisait le couple, il a payé 1000 francs pour avoir cet arrangement, et cette femme a été arrêtée au moment où le légionnaire devait la quitter. Et elle a avoué avoir fait déserter une quinzaine de légionnaires. Donc l'embarquement se fait aussi parce qu'il y a une complaisance de la marine marchande. En 1938, il y a un bulletin de renseignement qui tombe en Tunisie, enfin qui vient de Tunisie. Il apparaît que les commandants des bateaux allemands ont l'ordre de rapatrier tous les jeunes Allemands qui se trouvent à l'étranger, y compris les légionnaires. Des membres de l'équipage de l'Hélios, à destination de Malaga et à bord duquel a été arrêté le légionnaire Fraunderhofer, ont déclaré qu'ils percevaient une prime pour chaque engagé débarqué dans un port de l'Espagne nationaliste. Donc, en fait, de façon de grande envergure, la marine marchande participe à ce retour. Il y a une proximité qui se fait dans les ports entre les légionnaires et ces marins, puisqu'ils sont de la même langue. Et dans les ports, c'est précisément là où il y a les centres de repos des légionnaires, notamment à Salé. Donc, c'est assez facile pour les légionnaires de prendre contact et de pouvoir déserter. Et il y a un capitaine, bon, je vous passe les détails, mais qui a remarqué qu'en fait, ces légionnaires quittaient, mais en fait, quand ils ne voulaient pas partir, c'est parce qu'ils sont ramenés à bord par les marins. Ils ne veulent pas forcément déserter, mais le problème, c'est qu'ils ont appareillé et qu'après ça, ben, une fois qu'ils sont partis, qu'ils sont en mer, ben, ils sont partis. Le deuxième axe, c'est de rejoindre le Maroc espagnol. Alors, d'abord, la Légion étrangère a été, alors, à une échelle, vous verrez après ça les chiffres, mais assez moyenne, pris pour une sorte d'agence de voyage pour les Allemands qui voulaient combattre en Espagne, qui ne parvenaient pas à franchir les Pyrénées. Donc, ils s'engagent à la Légion, ils font leur instruction dans un camp, enfin, Saïda, ils désertent, ils arrivent au Maroc espagnol, et de là, ils partent en Espagne. Ensuite, les moyens, bah, c'est soit la voiture. Donc, en fait, les légionnaires ont remarqué qu'il y a des failles dans les frontières. Et donc, quand ils désertent à plusieurs. Ils font les voitures, ils foncent à la frontière et ils vont sur des points qu'ils ont connus. Et il y a aussi la voie du car, où là, en fait, il y a une compagnie qui s'appelle Transport Valencia, qui avait pris Hans Sievers, bah, qui est de Mèche, et qui, au moment de passer la frontière, cache les légionnaires. En ce qui concerne les cellules nazies, eux, ils ont un système qui fait qu'ils sont de mèche avec des Espagnols qui viennent chercher les légionnaires, qui les emportent, qui les amènent jusqu'à proximité de la frontière. Et là, il y a des passeurs qui les font franchir la frontière. L'objectif de tous ces gens, c'est de rejoindre les consulats. Donc, au Maroc espagnol, il y a deux consulats qui sont plus spécialement organisés pour traiter le retour des légionnaires. C'est le consulat de Larache et le consulat de Tétouan. En Syrie, il n'y a pas de consulat, donc là, les légionnaires ont pour ordre de rejoindre la Palestine. Et en Algérie, où il y a des consulats, finalement, ce n'est pas tellement simple pour les Allemands, puisqu'en fait, ils sont plus facilement découverts, puisqu'en fait, ils sont sur le territoire national. Alors, les consulats, ça, c'est un laissez-passer d'un légionnaire, donc du légionnaire Engelmann, qui est un agent nazi, mais vous voyez que c'est un certificat de conduite politique et qui lui permet, après ça, c'est un faire-valoir auprès des consulats. Alors, parfois, il n'y a pas besoin de faire appel au consul, au consulat. C'est ce qui s'est passé pour la SAR. La SAR, en 1935, de façon assez incroyable, puisque l'idée, c'était de pouvoir faire voter un maximum de gens qu'on pensait acquis à la cause et du rattachement de la SAR à la France. Il a été mis en place pour les légionnaires sarrois la possibilité d'aller voter. Ils ont eu les papiers par l'Association française de la SAR. Le voyage a été mis en place et ils ont été acheminés tous sur Marseille, donc venant d'Algérie, de Tunisie ou du Maroc. Et au total, ils sont 80 à voter. Ils ont un point de contact pour le retour. Ils ne sont plus que 19 à rentrer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y a ceux qui ont effectivement déserté parce qu'ils le souhaitaient. Il y a ceux qui ont été rattrapés par leur famille et que la famille a empêché d'arriver à l'heure. Donc, on a un légionnaire qui est revenu dans les archives, qui raconte son chemin. Et puis surtout, ils se sont fait arrêter, notamment par le jeune Engelmann, qui à ce moment-là était SA, arrêté et emmené dans les camps dont je vous parlais. Et l'autre complaisance, bien sûr, c'est la complaisance espagnole, puisqu'en fait, les Espagnols considèrent la nationalité avant la fonction, donc ils considèrent qu'ils sont d'abord des Allemands avant d'être des légionnaires, donc ils refusent systématiquement de remettre les légionnaires déserteurs aux autorités françaises, sauf lorsque ces déserteurs arrivent avec des armes, puisque là, voilà. Ceci dit, quand c'est arrivé plusieurs fois, ça, à chaque fois, ça a débouché sur une crise diplomatique, d'abord entre la France et l'Espagne, et ensuite l'Allemagne s'y est mêlée, et finalement, ces déserteurs n'ont pas eu de peine très lourde. Donc, comme le temps passe, je passe tout de suite à la conclusion et je vais vous donner quelques chiffres. Donc, c'est assez difficile d'avoir une approche quantitative parce qu'il y a des sources différentes, parce qu'on ne parle pas de la même, forcément de la même chose quand on parle de la désertion. Mais en moyenne, au Maroc, donc, il y a une douzaine de déserteurs par mois. Dans les années 36-39. En Algérie, il y en a entre 60 et 90 par mois. Donc ça veut dire que c'est finalement l'Algérie, c'était il n'y a qu'un seul régiment, donc c'est beaucoup plus, on a beaucoup une meilleure vision. C'est les jeunes qui désertent au moment de l'instruction, où ils sont plus vulnérables. Mais surtout, le nombre de déserteurs ne veut pas dire l'état d'esprit, parce que pour ces 90 déserteurs en 1937 sur toute la Légion étrangère, il y a eu 549 tentatives de désertion. Et donc ça fait à peu près un taux de réussite de 20%. Et en 1938, il y a eu moins de déserteurs, il n'y en a eu que 60, mais sur une tentative de 274. Donc ça fait un taux d'un quart. Donc finalement, et ça sera ma conclusion, ça n'a pas si bien marché que ça, d'abord parce que les Français se sont rendus compte, alors je vous passe tous les détails, et ont réussi à mailler les services de renseignement militaire avec les services de renseignement civil. Ça, c'est le premier point qui fait que finalement, ça n'a pas été si dramatique que ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu un travail aussi qui a été fait de façon préventive, en organisant mieux le suivi des artistes, qui étaient aussi des filières de désertion, des ports et des commandants de bord. Et enfin, on remarque aussi que les désertions par les cellules nazies, finalement, il n'y a jamais de gros blocs. C'est quelque chose qui se fait dans la durée et de façon assez fluide. Donc, je voulais juste montrer que même en temps de paix, il y avait quand même un combat. Que ce combat, les légionnaires allemands ont été finalement victimes d'un bras de fer entre leur pays et la France. Et que cette désertion, qui peut être l'expression en fait, d'un ras-le-bol personnel, eh ben, peut être engendrée par une cause qui est bien supérieure.
Merci pour ce cas très particulier, mais enfin qui pose toute une série de questions. Une première question, mais là simplement de curiosité, ils se sont conduits comment pendant la guerre, enfin ces légionnaires allemands. Est-ce que vous avez une idée?
Oui. Alors, ça a été très variable, ça dépend des gens. Ils ont été remis dans deux régiments de l'Afrikakorps. Donc ils ont combattu dans les rangs de l'Afrikakorps, mais c'était un peu les parias. Donc certains sont revenus à la Légion après. Et donc en fait, voilà, ils ont combattu pour l'Allemagne.
Et les légionnaires allemands qui sont restés à la Légion.
Alors ça, c'est beaucoup plus douloureux, puisqu'en fait, par les clauses de l'armistice de 1940, ces légionnaires, en fait, l'Allemagne était vraiment très bien renseignée. Donc, ils ont pu donner des noms précis, des cas très précis. Donc, il y a ceux qui ont été réclamés par l'Allemagne qui ont été rendus parce que c'était dans les clauses d'armistice. Il y a eu des moments d'insurrection des légionnaires allemands. Et donc, le commandement leur a demandé s'ils voulaient rentrer ou non en Allemagne. Et beaucoup de légionnaires ont demandé à rentrer en Allemagne. Et ceux qui sont restés, soit ont été mis dans des camps de travail, soit sont partis en Indochine par des biais détournés. Et voilà.
Voilà. Oui, ceci arrive.
Ça pose la question de la double allégeance en temps de guerre. Et c'est vrai que j'ai pensé à la situation des Japonais durant la guerre d'Asie-Pacifique et à la 415e section, qui était composé de Japonais au service de l'Américain, précisément parce qu'il s'agissait de prouver qu'un Japonais pouvait être aussi bon qu'un Américain, et était d'ailleurs Américain. Et je suppose qu'on doit pouvoir trouver pas mal de situations de double allégeance comme
Alors,
ça.
En fait, le problème, la question est finalement biaisée, et on a vu ça aussi en 14, c'est que les légionnaires... On leur demande, quand c'est une guerre contre leur nationalité, et moi j'étais à la Légion dans les années, quand le colonel Goya parlait de la Bosnie, on avait des légionnaires qui étaient serbo-croates, et on leur demandait si oui ou non ils voulaient venir sur le théâtre. Donc ils sont pas obligés de s'engager. Ils peuvent faire une allégeance à la Légion sans pour autant aller combattre contre leurs frères.
Il y a un problème aussi de double allégeance. Je pense aux Indiens pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, c'est avec le général Rose, et qui se trouve donc à combattre contre l'Empire britannique, mais évidemment se retrouve du côté japonais dans le camp des vaincus.
Oui, c'est ça,
et
c'est
après,
ça.
Il a fallu réintégrer ces hommes, et le gouvernement indien a choisi de ne pas les réintégrer, puisque trop politiques. Et donc, ils ne sont pas rentrés dans l'armée indienne. Mais du coup, ça fait des gens qui se sont retrouvés perdus pour l'armée, pour ça, et avec une grande rancœur. Hein, c'est un problème. Pour le cas, par exemple, du 19e siècle, on a plusieurs cas comme ça de Français, notamment qui sont dans l'armée égyptienne. Et au moment de, par exemple, 1827, au moment de la bataille de Navarin, Rigny a demandé à ce que les Français descendent des bateaux pour ne pas tirer des Français contre des Français, quoi. Hein, donc il y a un problème hein, d'allégeance, etc. Quand on se retrouve face à sa propre nation et tout ça. Mais on peut se demander aussi pourquoi ils les ont pas laissés jouer la cinquième colonne au fond des unités, les nazis, parce que c'est aussi une arme indirecte, mais là, en fin de compte, ils les ont punis en revenant dans les camps, en les maltraitant et tout ça. C'est assez étonnant. Il faut quand même être tordu, quelque part, les faire venir et puis après les persécuter.
Ceux qui ont été persécutés, c'est parce qu'en fait, dans la clause de dénationalisation, ceux qui étaient des agents n'ont pas été dénationalisés et au contraire, enfin, ils ont poursuivi une carrière normale. Ce sont ceux qui s'étaient engagés par dépit, en fait, et qui sont rentrés.
C'est assez amusant. Les raisons, je pense que le fond du problème est un problème aussi de motivation. Pourquoi est-ce qu'ils vont demander à être recrutés dans la Légion ? Quand on voit la raison marquée pour une histoire d'amour, on se dit quand même que c'est des grandes gamineries et que c'est des gens qui sont très proches de... Il ne faut pas grand-chose sûrement pour les faire... D'ailleurs, Jonger, c'est pareil. Hein, il est parti sur un coup de tête et après, il a beaucoup regretté. Il a été ravi qu'il y ait quelqu'un qui l'ait récupéré. Tout ça. Donc, et la motivation, à mon avis, est aussi pour le soldat, enfin les soldats français actuels. Tu as dit qu'il y en a 10 000 par an. Mais justement, c'est ce que Malou me disait, mais il va falloir qu'on regarde, toujours le même à Malou sur les blessés hein, de l'armée de terre, il faut regarder les motivations profondes des gens. Parce que le recrutement, quand il se fait pour des raisons économiques uniquement, etc., et qu'il n'y a pas de réelle motivation, à mon avis, ce sont des gens fragiles. Et ça, c'est important. Là, l'histoire d'amour... C'est comme pour rentrer au couvent. Hein.
C'est ce que donne Ernst Jünger, mais il y a autant de raisons de rentrer pour un légionnaire qu'il y a de légionnaires. Chacun a ses motivations personnelles.
Non, c'est bien. C'est comme je parle de motivation, mais en fin de compte, c'est comme ceux qui s'engagent dans les ONG. C'est pareil, ceux qui y sont disent qu'il ne faut jamais les gratter de savoir les raisons pour lesquelles. Mais n'empêche que pour aller faire la guerre, je crois quand même les motivations, il faut les regarder de près, à mon avis.
Existe-t-il... Oui, pardon, monsieur.
Non, c'est pour vous demander qui commande cette déstabilisation en Allemagne et à quelle fin ? Est-ce que ça reste secret ou c'est un but de propagande pour montrer que l'Allemagne est capable d'accélérer la dislocation morale d'une démocratie corrompue ? Je sais pas, quelque chose comme ça.
Alors, d'abord, c'est secret parce que l'Allemagne honnit la Légion étrangère, donc ils n'ont plus le droit d'en parler. Et ensuite, le vecteur déstabilisateur, c'est là où son organisation, donc c'est les affaires étrangères.
Il y a le suivi. Enfin, après la guerre, la Légion a de nouveau recruté énormément d'Allemands. Hein, et pour l'Indochine. Là, je ne sais même pas quels sont les pourcentages, mais ça doit être fou. On a le cas de Sager, bon, qui était un Alsacien, mais finalement, on lui a posé en main... Soit il part dans un camp, mais comme son père était français, ce n'était pas le cas, soit il rentre finalement dans l'armée. C'était
ou.
Ouais, ouais. Donc pourtant, il a fait toute la campagne, lui, à partir de 1943 en Russie. Garder l'Allemagne comme bon soldat et dans la Légion, ça n'a pas servi d'exemple, c'est ça ce que je veux dire, il n'a pas eu de leçon.
Alors, ce n'est pas le thème que vous avez traité, mais comment dire, des études sur les désertions en temps de guerre dans des armées, j'allais dire, normales. Enfin, quelqu'un a une idée, enfin, sur les proportions, sur les chiffres, ça a dû être étudié, non?
Au 19e siècle, oui, on a les 30. Enfin, on considérait que les conscrits, par exemple, sous l'Empire, 30 à 40% n'arrivaient jamais là où il fallait. Ouais. Et ils avaient la protection de la population. C'est quand même des populations, enfin, qui étaient franchement contre Napoléon, enfin, contre la Révolution, enfin, contre les régions contre-révolutionnaires ont continué. Le 19e siècle, c'est ce que je disais hier, enfin, bon, rapidement, on assiste on change. On ne peut plus, à cause des gendarmes, on ne peut pratiquement plus déserter dans l'armée française du 19e siècle. Ce qui fait que ça accroît les problèmes psychiques, les souffrances psychologiques, physiques, etc. des hommes. Pendant la Première Guerre mondiale, les gendarmes, que ça s'adhère du côté allemand, du côté français, jouent vraiment le rôle de... C'est la dernière ligne. Hein. Quand il y a des fuites au combat, on tombe sur les gendarmes.
Ils draguent à l'arrière.
On a
trouvé des gendarmes pendus. Voilà.
Alors ça, non. Alors, je suis désolée. Enfin,
mon père en a vu.
Bah, oui, mais alors, il n'a pas dû voir des gendarmes. Les spécialistes...
Il savait que c'était des gendarmes. Il y avait des groupes déserteurs qui se maîtrisaient les gendarmes, qui les tuaient, pendus dans... Mon père m'a raconté ça.
Une légende.
À Verdun. Et à l'arrière des lignes, son unité a trouvé dans un village des gendarmes pendus à des crocs de boucherie, dans une boucherie, qui avait été tué par un déserteur. Donc ça, il l'a vu certainement.
Alors, s'il y avait Jean-Noël Luc qui était là, il vous expliquerait que c'est une des mythes de la Première Guerre mondiale, que l'on retrouve d'ailleurs chez celui qui a fait la main coupée, là, Blaise Cendrin, etc. On n'en a jamais trouvé. Enfin, je veux dire, moi je veux bien qu'il y en ait eu, mais ils n'en ont pas trouvé des pendus. Alors on en a, on a plusieurs. C'est une légende urbaine de l'époque, quoi, je veux dire.
En 1918, par exemple, vous avez en Belgique, on estime qu'il y a peut-être 1 million de déserteurs allemands en Belgique, que les Allemands ont maintenant... Enfin, qui souvent, ce sont des gens qui ne rejoignent pas le front. C'est ça, c'est souvent par ça. Ça commence par l'arrière, comme toujours. Quoi. Et il y a des poches entières en Belgique où vivent des déserteurs allemands et qu'on laisse vivre. Ils ont créé des sortes de petites républiques autonomes jusqu'à la fin de la guerre, en arrière du front.
Quelques-uns pendant la guerre d'Algérie aussi. J'ai fait des expertises. Et qui était absent au sixième jour à l'appel de Diane. C'est l'appel de Diane, petit matin. C'est à 6 heures du matin, l'appel de Diane. Ce type est absent et au sixième jour, il déserte.
Mais il y a eu beaucoup de désertions. Alors, je ne sais plus les pourcentages, pendant la guerre d'Indochine. Des désertions d'Algériens, d'Africains, etc., qui ont déserté en Indochine. Et puis, il y en a, on trouvait beaucoup aussi dans les... Le mot, on employait ça pendant les rafalés. Vous savez, ceux qui, par exemple, sur les pontons, se laissaient totalement aller, c'est ce que je disais hier, hein, en gros, s'effondraient. Et là, par exemple, au camp de Bien Bien Phu, il y a à l'écart du camp, il y a des tas de rafalés, de gens qui ne combattent plus, etc. Et là, il y a beaucoup de troupes qui, finalement, n'ont pas déserté, parce qu'ils ne peuvent pas, il y a la jungle. Mais en fin de compte, ça revient au même, quoi, ils ne participent pas au combat. Voilà. Ouais. Ouais.
En fait, c'est une
désertion
intérieure.
Voilà, ça c'est important. Voilà, ouais.
C'est-à-dire qu'il y a la
garnison qui... Micro. Mais vous avez, en réalité, vous en avez 3, 4 000 qui sont à l'intérieur du camp et qui ne combattent plus.
Bien, très bien. Manière de parler. Merci. Donc, nous terminons cette matinée par un thème... je crois, tout à fait différent, avec Laurent Vissière, qui est donc maître de conférence à Paris, à l'Université de Paris. On dit comment depuis, ça a changé? On dit toujours Paris-Sorbonne? On dit Sorbonne, hein? Paris-Sorbonne, oui. J'y étais, mais enfin bon, je sais que ça change. Et qui nous... Oui, oui, mais c'est les chiffres ont disparu, je crois, non? Qui va nous parler de la psychologie des populations assiégées à l'époque. J'allais dire débrouillez-vous, parce que je suis d'aucun secours pour ce genre de questions. commence bien.
Bon, je me mets là dans ce cas.
Oui, bien sûr.
Oui. Bon, en effet, je vais vous parler d'un thème un peu différent et en fait semi-militaire, puisque c'est plutôt du côté des populations assiégées que je me place. Le siège d'une ville est par définition un moment de violence très intense, aussi bien physique que psychologique. Ce moment commence avant l'arrivée de l'ennemi sous les murs de la cité, avec des rumeurs vraies ou fausses et tout un bruissement de la guerre qui se rapproche. La crise n'est d'ailleurs pas non plus finie avec le départ des troupes ennemies, puisque un siège, même infructueux, laisse des traces profondes, des meurtrissures. Et je ne parle même pas d'une ville qui tombe. Pendant des jours, pendant des semaines, voire des mois, la cité se retrouve refermée sur elle-même, vivant au rythme de la guerre et des alertes, des cris, des menaces et d'une angoisse toujours accrue, qu'on appelle la fièvre obsidionale, et qui est parfois accentuée encore par la famine et la maladie. Ce tableau horrifique n'est bien sûr en rien une spécificité du Moyen-Âge. Et il n'est sans doute pas anodin que le premier monument de la littérature mondiale soit un récit de siège, la guerre de Troie en l'occurrence, et si l'on se rapproche de notre période, que des sièges de la Seconde Guerre mondiale, comme Leningrad ou Stalingrad, soient parmi les plus grands affrontements justement de cette guerre. Les sièges de villes ne manquent pas à la fin du Moyen-Âge, mais à ma connaissance, il n'existe aucune réflexion d'ensemble sur le sujet. Déjà, seuls quelques sièges ont laissé une trace dans la conscience nationale. Je pense notamment au siège de Calais en 1346 avec les bourgeois ou celui d'Orléans en 1428 avec Jeanne d'Arc. Mais je dirais que justement, ils ne sont traités au mieux que d'une manière anecdotique, je dirais ponctuelle et au pire anecdotique. Parlerait-on de ces deux événements encore s'il n'y avait pas eu la figure des bourgeois de Calais, la corde au cou, s'il n'y avait pas eu l'intervention miraculeuse de la Pucelle à la fin du siège d'Orléans. L'arbre cache la forêt, je pense, dans ces cas-là, et il faudrait se demander d'emblée si la période obsidionale n'est pas justement extrêmement propice au développement de belles histoires, entre guillemets. En tout cas, une étude sérielle du phénomène permettrait de dépasser le cadre de l'anecdote. Alors, il y a une seconde difficulté qui est importante et qu'il faut surmonter, c'est celle qui consiste à ne considérer le siège que du seul point de vue militaire. Car au-delà des questions d'ailleurs passionnantes de la polyorcétique, de la fortification, ces sièges mettent en jeu toute une communauté civile prise au piège de ces mirailles. Or, c'est justement l'objet de mes recherches actuelles et de la présente communication. Comment survit une communauté humaine en contexte obsidional? Comment se réorganise-t-elle? Quelles sont ses pensées, ses réactions, ses terreurs, ses espoirs? En un mot, quelle est sa psychologie, que je traiterai d'un point de vue de pur historien, c'est-à-dire, vous m'excuserez, d'une psychologie peut-être un peu de bazar. Alors, le sujet est difficile pour sa période dans la mesure où on manque de sources fiables. Les chroniqueurs médiévaux adoptent souvent un point de vue lointain sur la guerre de siège. Ils se concentrent sur ce qui les intéresse, c'est-à-dire ce que font les hommes d'armes, sur la tactique adoptée, les ruses ou les beaux faits d'armes. Lorsque la ville tombe, eh bien, ils se livrent souvent à la litanie des atrocités, qui sont autant de topoi littéraires dont certains remontent à la nuit des temps. Il faut donc manier ces textes avec prudence. Et pour aborder la question du ressenti des populations assiégées, je privilégierai ce qu'on pourrait appeler les sources internes, c'est-à-dire les délibérations municipales, les chroniques locales, les lettres et surtout les journaux, qui est le type de source le plus négligé et, à mes yeux, le plus intéressant. Alors, il y a certains journaux, comme celui d'un bourgeois de Paris, ou celui d'Honorat de Valbel à Marseille, qui se déroule sur plusieurs années. C'est un bourgeois qui prend des notes sur tout ce qui se passe, et à l'occasion, il y a un siège. En l'occurrence, le siège très court de Paris par Jeanne d'Arc, pour le bourgeois, en 1429, ou celui de Marseille, beaucoup plus long, par le connétable de Bourbon, en 1524. D'autres journaux présentent la particularité de n'avoir été écrits que pour le siège. Ne racontez que le siège. C'est le cas du journal anonyme du siège d'Orléans, 1428-29, du siège de Beauvais, 1472, de celui de Rhodes, 1480, de celui de Dijon, 1513, ou plus tard encore, qui est très beau, celui de Sancerre par Jean de Léry, 1573. Alors, infiniment précis sur le déroulé militaire, de tels documents donnent aussi, et c'est ce qui m'intéresse le plus, le pouls de la population. Alors, on ne peut parler de la psychologie d'une population assiégée sans évoquer d'abord le sentiment qui domine alors, un sentiment qui est à la fois primaire et polymorphe, la peur. Dans ses belles études sur la peur en Occident, Jean Delumeau s'est focalisé sur les peurs eschatologiques, dont finalement la peste n'est qu'une forme. Mais il a laissé complètement de côté ce bloc de peur collective, totale, qui est le moment du siège. Heureusement pour moi. Alors, certaines cités ont été assiégées à l'improviste. C'est le cas d'Harfleur, tout à coup investi par les Anglais qui viennent de débarquer. Mais la plupart du temps, l'envahisseur ne peut compter sur l'effet de surprise. Il y a toujours des espions, des informateurs, des gens qui notent le mouvement des troupes, qu'on met beaucoup de temps à rassembler. Et une fois que l'armée est en route, elle avance très lentement. On peut suivre de loin sa marche par l'afflux des réfugiés ou de manière encore plus prosaïque par les colonnes de fumée qui montent dans le ciel et qui marquent les villages incendiés. C'est le moment où commencent à circuler les rumeurs, toujours terrifiantes et pas forcément infondées. Alors, un exemple, en 1513, les Suisses qui se sont rassemblés à Besançon pour attaquer le royaume de France mettent 15 jours pour rejoindre Dijon, ce qui est quand même un exploit de lenteur, hein, hâte-toi lentement. Mais pourquoi ? Eh bien, on le sait par leur journal de route, pour le coup, ils prennent énormément de temps à faire leur travail proprement, c'est-à-dire à incendier et piller tout ce qu'ils rencontrent sur leur passage. Et donc, ils détruisent villages, châteaux, abbayes, ils violent indifféremment les filles et les tombeaux. Et ils sont jurés de tout mettre à sac jusqu'à Paris, ce qui explique que des mouvements de panique ont lieu bien au-delà de la Bourgogne, puisqu'on voit la mise en défense hâtive de villes comme Bourges ou même Poitiers. En 1524, l'invasion de la Provence par les troupes du connétable de Bourbon est source de mots innombrables qui font dire à Honorat de Valbel que les Turcs n'auraient pas pu faire pire. La rumeur circule d'ailleurs bientôt à Marseille que les envahisseurs vont violer toutes les femmes de la ville. À Sancerre, en 1573, une bonne partie des habitants sont en fait déjà des réfugiés qui ont fui les massacres perpétrés par le parti catholique. Donc, ils savent de quoi ils parlent. La situation est, je dirais, presque pire dans le cas d'un siège volant, comme c'est le cas à Paris dans la première moitié du XVe siècle. La ville a été puissamment fortifiée, elle n'est donc pratiquement jamais assiégée en réalité. Il y a l'épisode de Jeanne d'Arc, mais qui est en fait tout à fait anecdotique. À défaut de mettre un siège de Paris, les bandes armagnacs, plus ou moins pour le dauphin, mettent en coupe réglée le plat pays alentour, c'est-à-dire que la ville est lentement investie par des troupes hostiles qui ne mettent jamais le siège, mais qui la coupent de toutes ses relations avec l'extérieur. Et ça va durer pendant 20 ans, hein, des années 1410 aux années 1430. Alors, le bourgeois de Paris donne des exemples. Hein, l'automne 1411, les Armagnacs occupent la banlieue, comme Pantin, Saint-Ouen, Montmartre, et explique-t-il, ils firent tant de maux comme les eussent fait Sarrasins, car ils pendaient les gens, les uns par les pouces, les autres par les pieds, les autres tués et rançonnés, et forcés, femmes et boutés feu. En 1414, toujours d'après lui, les Armagnacs s'emparent de Soissons où ils font tout ce qu'ils peuvent. Meurtre, rançon, viol à la chaîne, y compris dans les couvents, pillage général, y compris des églises. Alors on a là tout le catalogue stéréotypé des horreurs, mais il faut bien dire que le vent qui apporte les cendres et le parfum du brûlé ajoute du crédit à ces rumeurs qui circulent, et aussi le récit des réfugiés hein, qui ont vu leur masure brûlée. En attendant la nuit, c'est le complexe du désert des Tartares, hein, on a tout le loisir d'imaginer ce qu'il fera à la cité s'il la prend. Alors, encore faudrait-il que l'ennemi prenne la cité. Une cité, à cette époque-là, avec ses murailles, sa garnison, son guet bourgeois, est en général tout à fait capable de repousser les premiers assauts ennemis. Un siège demande du temps et des moyens, ce qui explique que, dans un premier temps, les habitants redoutent beaucoup moins l'assaut dévastateur que la surprise, selon le terme du temps, et la trahison. Combien de villes ont été prises simplement parce que quelqu'un a ouvert la porte de l'intérieur, lancé une échelle de corde du haut des murailles. C'est le cas de Paris, prise par les Bourguignons en 1418 et par les troupes royales en 1436. la ville la mieux fortifiée du royaume, tombe deux fois, il n'y a pas eu un seul mort, hein, ce qui est une guerre propre. Dès avant le siège, pendant toute la durée, règne une psychose de la trahison qu'on a appelée dans d'autres temps l'espionnite, la cinquième colonne, enfin tout ce genre de choses. Alors, que fait-on là-dedans ? Eh bien, on se contente parfois de chasser les étrangers et les gens suspects. Hein. Il y a un marchand de laiton, on ne sait pas d'où il sort, hop, dehors. Mais les mesures s'avèrent plus radicales le plus souvent. Les personnages douteux se retrouvent presque ipso facto sur la sellette du bourreau, où ils avouent bien des choses inavouables. Exemple, à Melun, en 1413, on arrête un certain Étienne Artuis, qui avoue être un agent des Armagnacs, chargé à la fois de reconnaître la puissance de la garnison bourguignonne et de faire la propagande pour son parti. En 1472, à Beauvais, on attribue l'incendie de l'hôtel épiscopal à des traîtres. Et on appréhende quelques jours plus tard des individus suspects, habillés en paysans ou en mariniers, venus bouter le feu et empoisonner les puits. Ils sont tous décapités. Les épisodes les plus incroyables semblent s'être joués à Rhodes, en 1480. Avant le siège, le grand turc avait soudoyé sur place divers personnages, un grec, des juifs, un italien. Ils sont tous découverts par le très vigilant contre-espionnage des chevaliers. Ils sont traînés par les pieds, écartelés, empalés. Durant le siège, enfin au choix, toutes sortes de gens s'enfuient du camp turc pour demander l'asile aux chevaliers d'Enrode. Parmi ces transfuges, certains sont des faux transfuges, des agents venus inspecter les défenses, assassiner le grand maître, empoisonner les puits. Selon les cas, ils sont jetés à la mer. Lorsqu'ils viennent empoisonner l'eau, on les jette à la mer, on les noie. Sinon, on les pend ou on les empale. Alors là, exemple d'un manuscrit qui raconte ça, les différents supplices aux Turcs. Hein, vous voyez, une espèce de variété, mais j'y reviendrai, qui fait partie du mode de vie obsidionnel. Alors, le siège qui mobilise une armée en campagne coûte très cher à l'agresseur. Celui-ci a donc tout intérêt à réduire la cité au plus vite et à n'importe quel prix. Il cherche donc à affaiblir celle-ci en attaquant aussi bien les fortifications que le moral des assiégés. Et on se rend bien compte qu'en réalité, une fois le moment de surprise entre guillemets passé, c'est essentiellement une guerre de négociation qui a lieu. Et on s'en prend au moral des assiégés. On va envoyer des négociateurs à l'intérieur des murailles ou simplement qui crient de l'autre côté des fossés hein, pour proposer des conditions. Alors, qu'est-ce qu'on promet ? À la garnison, une capitulation honorable et à la population, la vie et les biens, c'est-à-dire pas le sac. En cas de refus, le sac et le massacre. L'alternative est résumée parce que très très bien dans une très courte formule donnée par les chefs de l'armée royale en 1436 qui se présentent devant une porte de Paris. Ils disent « Laissez-nous entrer dedans Paris paisiblement ou vous serez tous morts par famine, par cher temps ou autrement. Hein, » On laisse suspens. Les Turcs qui appliquent les sinistres règles de la guerre sainte font à plusieurs reprises des sommations aux Rhodiens. Ils leur promettent en cas de résistance le massacre, le viol, l'esclavage. Exaspéré par la durée des opérations, le pacha jure d'empaler tous les adultes, hommes et femmes, et il fait ostensiblement tailler 8000 pieux hein, sous les yeux des Rhodiens. Faute psychologique grave, puisqu'ils étaient un peu mous, et là, ça les a stimulés pour résister. Au XVe siècle, la guerre psychologique utilise aussi l'artillerie à poudre. C'est l'ère des canons géants. Leur efficacité réelle face aux murailles demeure aléatoire. Mais la seule présence de canons géants suffit à terroriser les assiégés. En 1453, les habitants de Constantinople se pensent perdus en découvrant la gigantesque bombarde, alors c'est pas celle-là, mais c'est une à peu près similaire, que Mehmet II a fait fondre à Andrinople, donc 8 mètres de long, enfin, ça, c'est des tirs terrifiants, mais d'une efficacité faible, il faut la déplacer, il faut la manœuvrer, ça tire au maximum 8 coups par jour, mais ça fait beaucoup de bruit. Alors, il est clair que l'artillerie a fait beaucoup plus de mal au moral des défenseurs qu'à leur muraille, hein, que contrairement à ce qu'on écrit, c'est pas du tout par artillerie que les Turcs sont entrés par Constantinople. Ils n'avaient pas fermé une poterne. Les Rhodiens offrent un témoignage de choix sur ce tir des bombardes. Guillaume Caoursin, qui est l'auteur d'un récit célèbre sur le siège, explique. Lorsqu'elle lance des boulets de pierre, le départ de la pierre produit un bruit énorme qui résonne à la manière du tonnerre. Et le vent porte dans les airs une fumée qui ressemble à un nuage épais pendant un long moment. Et on a d'autres textes qui parle justement des vibrations de la déflagration hein, qu'on entend jusque sur la muraille et puis de ce nuage de fumée, cet éclair. Les vibrations du sol, la fumée, le bruit sont des sources d'horreur. Et si les bombardes tirent avant tout pour faire brèche, On utilise parallèlement des courteaux, qui sont en fait des mortiers géants, dès les années 1420. Le tir parabolique de ces armes n'a strictement aucun intérêt militaire. Voilà ce qu'on faisait à Rhodes à la fin du XVe siècle, hein, au musée de l'armée. Plus gros mortier conservé de nos jours. Ça n'a aucun intérêt militaire. Il s'agit simplement de frapper les maisons et les habitants depuis le ciel afin de créer une peur panique. Dès les premiers jours du siège d'Orléans, les Anglais utilisent ainsi un gros canon qu'ils nommaient passe-volant, lequel jetait pierres pesant 80 livres, qui fit moult dommages aux maisons et édifices d'Orléans. À Rhodes, quand les mortiers commencèrent à tirer, le peuple fut en si grande terreur que s'il n'eût été Dieu qui, par sa pitié, les réconcilia et réconforta, ils eussent perdu le sens et l'entendement et eussent rendu la cité aux ennemis pour en faire leur volonté. Ce qui montre tout à fait le véritable objectif de ces mortiers. Là, sur cette miniature de Vavrin, vous voyez les deux armes côte à côte qui sont déjà conçues comme complémentaires. Hein. Donc, la bombarde pour faire brèche, le mortier pour terrifier. Alors, le facteur temps aggrave les angoisses et les terreurs, mais il apporte également de nouveaux motifs de préoccupation. Car plus un siège se prolonge, plus il entraîne des problèmes sanitaires et alimentaires. La faim devient très vite l'inquiétude majeure. Il semble qu'en général, une cité dispose de vivres au moins pour un mois, et si elle est bien tenue, pour 3 ou 4 mois. Et ces chiffres ont un sens, c'est-à-dire qu'on fait la guerre à la belle saison, il s'agit de tenir jusqu'à l'hiver, en sachant que l'hiver, l'ennemi est obligé de plier bagage s'il n'a pas pris la cité. Hein, donc, en fait, c'est ça le truc. Il faut tenir 4 mois jusqu'à la mauvaise saison. En 1480, les hospitaliers se vendent d'avoir des réserves pour 3 ans, et de fait, ils manquent de rien pendant les 3 mois que dure le siège. Et c'est les Turcs qui n'ont plus rien. En 1429, les Anglais sont incapables d'investir Orléans, et des convois peuvent entrer durant toute la durée des opérations. Mais toujours est-il que l'organisation du ravitaillement, la construction des moulins, le rationnement relève du travail des autorités municipales. Et c'est d'autant plus complexe qu'il a fallu accueillir dans les murs toute une population de réfugiés. Alors ceci, ce n'est pas en soi une mauvaise chose, ils sont venus avec leurs troupeaux. Donc en fait, on ne manque pas de viande fraîche dans un premier temps, mais peu à peu, la nourriture va être véritablement rationnée. Et même si, malheureusement, je n'en ai trouvé aucune trace écrite jusqu'ici, il y a clairement un ordre d'abattage des bêtes dans une cité assiégée. Le journal de Jean de Léry à Sancerre en donne une idée, puisqu'il y a un chapitre consacré à ça. On tue d'abord les bœufs, les ânes, les mulets, la plupart des chevaux, puis les chats, les rats, les taupes, les souris, les chiens, et en dernier lieu, les 6 vaches qu'on avait conservées pour le lait des enfants. Ce qui fait qu'après, on n'entend plus les vaches, mais on n'entend plus non plus les enfants. Assiégée par les Anglais en 1420, la ville de Melun ne capitule qu'après avoir mangé le dernier rat, souvenir traumatique qu'on retrouve dans la devise de la ville, puisque celle-ci est « Fides muris, usque ad mures », ne reculez jamais devant un jeu de mots en latin, hein, « fidèle aux murailles jusqu'au rat hein, ». On se met à ingérer n'importe quoi. À Rouen en 1419, on mange des épluchures, l'herbe. À Sancerre, on fait des bouillons avec des peaux de bêtes, du cuir et même du parchemin. Et on va dévorer des livres au sens propre. Hein. Il y a donc des bibliothèques qui disparaissent en bouillon. Et il y a même un cas, de cannibalisme. Hein. Les conditions d'hygiène sont désastreuses. Alors, il faut imaginer les campements des réfugiés dans la cité. Alors, j'en ai qu'un seul exemple sur une miniature. Donc ça, c'est un tableau votif du siège de Rhodes. Et voilà un détail. Au centre de la ville, vous voyez qu'il y a la place avec la croix. Et sur la place, vous avez des baraques de bois qui sont clairement les trucs qu'on a construits pour les gens qui se sont réfugiés dans la cité. Il est absolument impensable d'avoir une espèce de village en bois sur la place monumentale de cette cité. Alors, il faut penser à ces campements. Sous-alimentation, apparition de maladies. Alors, on craint beaucoup la peste, souvent perçue comme un mal générique, et l'empoisonnement des puits par un ennemi sournois. La réalité est plus prosaïque. La présence d'une armée nombreuse qui campe en un même lieu signifie que des dizaines de milliers de bêtes et de gens font leurs besoins sur place, empoisonnant très vite la nappe phréatique. Du coup, la dysenterie frappe en général d'abord le camp des assaillants avant de toucher la cité elle-même. C'est ce qui passe exactement à Melun en 1420. C'est l'armée assaillante qui est la première touchée par la maladie, qui finit d'ailleurs par emporter la ville. Alors, j'ai tâché de montrer donc, dans ce premier temps l'aspect tangible que peuvent prendre la peur et l'oppression en mode obsidional. Mais ce n'est qu'un début, bien sûr, il faut parler aussi du temps. Une question philosophique en apparence et pourtant concrète. Alors, comment est perçu le temps dans cette cité ? Eh bien, les cloches rythment traditionnellement les journées des villes et des campagnes. Les horloges mécaniques qui apparaissent à la fin du Moyen-Âge marquent une nouvelle façon de donner l'heure, mais sans véritablement s'opposer au temps religieux qui demeure la norme pour l'immense majorité de la population, je dirais même pour toute la population. La guerre, qui suit d'ailleurs le rythme des saisons, n'a pas vocation à modifier la perception du temps. Mais le siège introduit dans les faits une nouvelle temporalité qui mérite d'être étudiée. En premier lieu, les portes de la cité, qui s'ouvrent le matin et se ferment le soir, suivant en fait le rythme du soleil, demeurent fermées. On n'entend plus les cris de la laitière. Le premier cri de la ville qui se lève, c'est la laitière, qui arrive de la banlieue avec son pot de lait sur la tête et crie « qui veut du bon lait ?» Un personnage tout à fait traditionnel des villes occidentales, et elle est suivie par les maraîchers. Dès lors que les portes sont fermées, ces personnages disparaissent de la scène. Et globalement, les portes qui demeurent hermétiquement closes sont le symbole d'une nuit qui ne finit pas, puisqu'il n'y a pas le matin qui renaît. Si le siège se prolonge, c'est le rythme même des saisons qui est en cause, puisque les maraîchers chantent les produits de saison dans les rues, ces produits changent d'un mois sur l'autre. Et on est contraint de manger des provisions qui sont stockées comme en hiver. Du coup, les portes de la ville apparaissent comme le symbole d'un hiver qui ne finit pas. En second lieu, convient de parler des cloches. J'aime beaucoup les cloches. Théoriquement, elles continuent à sonner les heures religieuses comme à l'accoutumée. Dans la pratique, elles acquièrent aussi une fonction militaire. Les cloches de la cité se mettent à sonner, selon des codes plus ou moins complexes, les alarmes qui, par définition, sont brutales et irrégulières. Le tocsin est en général lié à un beffroi, à un clocher qui est bien identifié. C'est le cas, par exemple, à Sancerre, où on sonne l'alarme au beffroi de la cité, qui est la Tour Saint-Jean, qui existe toujours. Tour Saint-Jean qui est à la fois religieuse et laïque, puisque c'est dans cette tour que se réunit le conseil municipal. À Orléans, les comptes de mars 1419 donnent quelques détails sur les dispositifs. Les clochers de Saint-Pierre-en-Pont et Saint-Paul servent de beffroi. Et selon un nombre de coups déterminés, peuvent annoncer l'arrivée de l'ennemi de tel ou tel côté. Vu la menace en ambiance, on commande à un fondeur quatre cloches dont seront munies les quatre portes aux quatre points cardinaux. Hein, ce qui donne la ville est divisée en quartiers, ce qui est tout à fait normal hein, d'ailleurs. Le journal du siège rapporte toute une série d'alarmes. Évoque la cloche du beffroi ou de la cité. Ce qui laisse entendre qu'il y a des alarmes ponctuelles tel ou tel coin, mais il y a une alarme générale à un beffroi central. C'est un système qu'on retrouve à Dijon 1513. Le guet central est établi sur le clocher de Notre-Dame, mais des sentinelles peuvent crier ou sonner l'alarme avec des petites cloches sur chacune des tours des portes. Une cloche spéciale est dédiée à l'alarme incendie, ce que l'on craint particulièrement en période de siège. En outre, il faut éviter que les sonneries religieuses perturbent les signaux. Pour les sonneries nocturnes, on se contentera donc de piquer la cloche, c'est-à-dire de ne la faire sonner que d'un seul côté. Le battant est tapé que d'un seul côté de la cloche. Au passage, ça c'est à Dijon, c'est une particularité de Dijon, mais que je trouve assez sympathique, pour la même raison, c'est-à-dire la peur, qui est un bruit parasite qui empêche d'entendre les signaux nocturnes, on abat tous les chiens errants de la cité, hein, parce qu'ils faisaient un vacarme monstrueux pendant la nuit, donc on les abat. Le siège de Rhodes offre un exemple concret des sonneries d'alarme. Lorsqu'à l'aube du 27 juillet 1480, les Turcs s'emparent à l'improviste d'une portion des murailles, une trompette qui l'a été commença à crier à l'assaut, c'est-à-dire voilà l'exemple des clairons d'alarme. Il y a une sonnerie spéciale des trompettes qui est traduite immédiatement par les mots « alarme » ou « à l'assaut ». Hein, donc on entend, c'est une sonnerie particulière qui est reprise selon un même code par les cloches. Et donc, il y a d'abord la sonnerie de la trompette, puis un clocher, puis toutes les cloches de la cité se mettent à sonner l'alarme générale. Ce qui fait que l'on combat dans un concert de cloches, ce que malheureusement on n'a jamais dans les reconstitutions de films, hein, où on entend toujours des gens en train de hurler, un bruit de ferraille. Et, film médiéval, c'est un bruit de ferraille. Or, en réalité, le combat médiéval est un bruit de bronze. Mais bon, quand je serai conseiller à Hollywood, on changera tout ça. Alors, il y a un code sonore également lié au bombardement. À Rhodes, on sait que dès que l'on voit les mantelets des canons turcs se relever, une cloche sonne qui donne une indication de l'endroit où le bombardement va être effectué. C'est-à-dire que les gens ont le temps de se mettre à l'abri avant de voir arriver le boulet de la bombarde. Ça me paraît incroyable, mais c'est écrit noir sur blanc sur le journal. Le rapport entre ces cloches et les canons, d'ailleurs, n'est pas du tout fortuit. Les deux objets sont très proches, aussi bien dans leur conception que dans leur forme. C'est souvent les mêmes artisans qui les fabriquent. Et en temps de siège, l'analogie se poursuit. Avec les cloches, ce sont les bombardes qui rythment la vie quotidienne. Il faut imaginer la déflagration initiale de la bombarde, les cloches d'alarme, le choc du projectile sur la muraille et, ou sur la ville en cas de tir de mortier. Est-ce à dire qu'un rythme sonore, celui de la guerre, en a remplacé un autre, celui des églises ? En fait, pas du tout. Car ce qui caractérise le mieux le temps de la guerre, c'est justement son absence de rythme. Les tirs des bombardes sont lents, capricieux, irréguliers. Et surtout, dans une perspective de guerre psychologique, ils se poursuivent le jour et la nuit, sans valeur militaire, sans trêve ni repos. Si le siège peut être comparé à une longue nuit, c'est une nuit dérangée où l'on ne dort pas. Alors, ce dérèglement total du temps et des rythmes quotidiens a pour conséquence immédiate de créer un monde anormal. Pour reprendre un terme plus médiéval, un monde merveilleux. Paradoxalement, alors même que les cloches ne sonnent plus de manière régulière les heures et les offices, la vie religieuse tend au paroxysme. Les églises sont pleines en permanence. Les femmes, les enfants, les malades, les non-combattants de manière générale prient pour le salut de la cité. Il ne faudrait pas en conclure un partage des tâches, car les combattants vont en général à la messe au moins une fois par jour, le matin ou le soir, voire les deux, et tous les non-combattants sont en fait présents sur les murailles pour apporter de l'eau, pour apporter des vivres, pour soigner les blessés, éventuellement pour repousser un assaut. C'est le cas de Jeanne Fourquet, mieux connue sous le nom de Jeanne Hachette, qui s'empare d'un étendard bourguignon à Beauvais, ou de Catherine Ségurane, qui incarne la défense de Nice contre les Turcs, s'emparant elle aussi d'un étendard turc dont elle se serait ensuite torchée les fesses. En fait, c'est toute une piété spontanée qui se met en place, et les autorités ont bien du mal à la canaliser. À Rhodes, on voit ainsi la foule se répandre dans les rues en gémissant, en invoquant le ciel à haute voix, des prières improvisées. À Dijon, les habitants organisent une cérémonie, une procession avec la Vierge tutélaire de la cité, sous le bombardement suisse. Sur les remparts de Beauvais, on promène la chasse de Saint-Angradem, qui est criblée de flèches par ces mécréants de Bourguignon. La dimension religieuse est bien sûr renforcée lorsque l'assaillant n'est pas de la même chapelle. C'est le cas à Rhodes, où il est musulman, à Sancerre, où il est catholique. Les religieux dans les deux camps jouent alors un rôle essentiel. Devant Rhodes, les muezzines invitent leurs coreligionnaires au carnage. À Sancerre, les réformés chantent des cantiques martiaux. Et le siège s'apparente encore plus clairement que de coutume à une ordalie. Mais ce qui est remarquable, c'est que le temps religieux est doublement déréglé. Non seulement le rythme des heures a été perturbé, on l'a vu, mais l'invocation aux puissances célestes est désormais quasiment permanente et universelle. Pour la majeure partie de la population, les journées sont chômées, pas par force, il n'y a plus de travail normal possible, et c'est ainsi que l'ambiance tourne facilement et paradoxalement à la fête. Messes chantées, processions solennelles se succèdent, on fait des vœux de manière individuelle ou collective, et l'on remercie le ciel de toutes sortes d'attentions dont on s'est vu gratifié. Alors, je pourrais parler deux heures sur les miracles, je vais être court, parce qu'il y en a de toutes sortes. Certains sont strictement liés au bombardement. Les contemporains s'émerveillent tous dans les journaux de siège de voir tomber des pierres du ciel, les fameuses pierres de mortier, qui ne tuent pratiquement personne. Alors, ça tombe dans des endroits incongrus, notamment au milieu d'une table où mangent des gens à Orléans, au milieu des chanoines réunis dans la cathédrale de Beauvais, ou encore à Rhodes, où le boulet traverse de part en part le palais magistral et finit dans la cave en faisant exploser une barrique de vin, donc qu'on regrette, puisque c'était du vieux vin. Ces boulets qui pleuvent sur les cités et qui ne tuent personne ne sont pas en fait un phénomène étonnant. Il faut penser à la très faible cadence de tir de ces armes. Une grosse bombarde, je vous dis, c'est 8 à 10 coups par jour au maximum. Donc ils en ont au maximum une dizaine. Donc on est très loin de Dresde ou de Coventry au niveau de la puissance du bombardement. Mais implicitement, les contemporains y voient l'intervention des puissances tutélaires de la cité qui, du ciel, voient passer ces boulets et sont particulièrement bien placés pour en détourner légèrement la course. À Rhodes, les défenseurs blessés par les boulets et les flèches disent s'être relevés indemnes grâce à d'invisibles soutiens. À Orléans, la mort mystérieuse du comte de Salisbury, frappé par un boulet que personne ne se souvient d'avoir tiré, est attribuée par les défenseurs à un jugement de Dieu, particulièrement mécontent d'avoir vu ses sanctuaires brûlés, notamment Notre-Dame de Cléry. Les miraculeux sont aussitôt rendus grâce à Dieu à ses saints, contribuant à une ambiance particulièrement exaltée. Le siège est donc un grand moment de communion avec les puissances célestes et tutélaires. L'ambiance festive peut revêtir aussi à l'occasion des airs de kermesse. On fête notamment l'arrivée de renforts. À Orléans, les troupeaux de porcs qui entrent régulièrement dans la cité suscitent une joie publique. Et alors que dire de l'arrivée de la pucelle, hein, c'est aussitôt la liesse. À Beauvais, les renforts du 29 juin sont accueillis par un banquet public. On dresse des tables dans les rues et on fait couler le vin comme s'il suffisait de le puiser à la rivière. Les exécutions capitales font partie de ces réjouissances populaires. À Rhodes, on pond ainsi... Là, c'est le Grand Blanc, hein, c'est plutôt Leningrad. Tout est perdu. Voilà. À Rhodes, on pend en grande pompe un traître, le fameux Maître Georges, un artilleur allemand renégat venu d'un ville pour la trahir. Et c'est en musique, on voyait une trompette derrière, et ce que n'a pas représenté le miniaturiste, mais qui est bien dans les textes, c'est que les petits-enfants dansent autour du gibet. Dans certains cas, on a même un véritable carnaval sanglant. Au soir du second assaut turc, les Rhodiens revêtent les dépouilles des cadavres, fichent leurs têtes sur des pics et se répandent dans les murs, tous dansant et menant grand fête avec trompettes et autres instruments. Il montre qu'on ne s'ennuie pas malgré tout, hein. Il n'y a pas cet ennui dont on a parlé, hein. Alors, entre abattement et exaltation, la période obsidionale est tout à fait extraordinaire pour les populations civiles. L'ordre des hommes, mais également l'ordre de Dieu, ont été mis à terre. Les autorités, tant civiles que militaires, ont parfaitement conscience de ce bouleversement et il s'avère vital pour elles de rétablir non pas l'ordre, mais un ordre. L'anarchie ne pouvant aboutir qu'à la chute rapide de la cité. Alors, une des difficultés que rencontre la cité assiégée est celui du commandement. Qui, des civils ou des militaires, va prendre en main la défense? Les capitaines ont normalement le dernier mot, mais encore faut-il qu'ils puissent s'entendre avec les élites municipales. Tout à fait symptomatique que le journal du siège d'Orléans indique comme un quasi-miracle que les bourgeois et les gendarmes aient fraternisé pour combattre l'anglais. Il est vrai qu'au commencement et avant que le siège fût assis, les bourgeois ne voulaient souffrir l'entrée d'aucun homme d'armes dans la ville, par la crainte qu'ils ne voulussent les piller ou trop fort les maîtriser. Toutefois, dans la suite, ils laissaient entrer tous ceux qui voulurent venir dès qu'ils connurent qu'ils ne voulaient que les défendre, C'est admirable pour une garnison, et qu'ils se comportaient si vaillamment contre leurs ennemis. Ils étaient très unis avec eux pour défendre la cité, se les partageaient entre eux dans leur maison et les nourrissaient des biens que Dieu leur donnait, aussi familièrement que s'ils avaient été leurs propres enfants. Donc, cas tout à fait extraordinaire. La même union sacrée se retrouve à Rhodes, sous l'égide des chevaliers, mais l'épouvante que suscitent les Ottomans est quand même pour quelque chose dans cette communion des différentes communautés de la cité. La plupart du temps, même en contexte critique, la cohabitation avec les gens de guerre s'avère très difficile, voire chaotique. L'exemple de Dijon 1512-1513 est révélateur. Face à la menace suisse, le gouverneur, Louis de la Trémouille, entend prendre des mesures drastiques. Il réorganise le guet bourgeois, exige que les ecclésiastiques y prennent part, malgré leurs privilèges. Il n'arrête pas de lancer des ordres et des réprimandes à la municipalité qui juge complètement molle. Le conflit le plus âpre porte sur la destruction des faubourgs, qui sont en fait de véritables quartiers riches et très peuplés, et que les Dijonnais refusent obstinément d'incendier. Il n'arrivera à obtenir gain de cause que lorsque les Suisses sont à 3 jours de marche, alors 3 jours lents, hein, de Dijon. C'est-à-dire que lorsque les Suisses arrivent dans la ville, les faubourgs sont toujours en train de brûler, hein, ce qui montre bien que ce n'est pas fait tout seul et que ça ne sert à rien, puisque de toute façon, les décombres sont là. Alors, il régit les activités des civils, le jour comme la nuit, c'est le service de guerre, de guet, contrôle la nourriture, la gestion des moulins et des greniers, investit les maisons, c'est le logement des troupes, la destruction de certains quartiers, y compris à l'intérieur des murailles, et cela suscite à chaque fois des heurts. En outre, la suspicion entre les deux populations, civiles et militaires, est forte, car les gendarmes craignent que les civils, qui sont lâches par définition, préfèrent se rendre, et ces derniers que les soldats, qui ne valent rien, profitent de la situation pour les tondre, éventuellement ensuite les abandonner aux mains de l'ennemi. En 1513, la garnison française de Thérouanne obtient par exemple une reddition honorable, mais les Anglo-impériaux, en prenant la ville, décident de la détruire. Il existe aussi des cas extrêmes où l'on voit la garnison transformer une cité en place forte et en expulser les bouchers inutiles. C'est ce qui s'est passé à Rouen en 1419. Alors, l'ordre militaire se double d'un ordre moral... réaffirmée. La cité fait corps derrière la Vierge protectrice traditionnelle des cités, particulièrement vénérée à Rhodes et à Dijon, autour de ses saints patrons, Saint-Aignan et Sainte-Verte à Orléans, Saint-Angradem à Beauvais, Saint-Michel au Mont-Saint-Michel. Mais le mouvement religieux est aussi bien collectif qu'individuel. Lorsqu'un siège, comme avant toute bataille, comme avant toute bataille, il est recommandé lors d'un siège de faire sa paix, de faire la paix avec son créateur. À Rhodes, tout le peuple de la ville, tant grand que petit, chevaliers, hommes, femmes et enfants, estoient bien confessés et repentants de leurs péchés, et étaient tous bien ordonnés comme bons chrétiens et comme attendant de mourir de jour en jour et de heure en heure. La communauté ainsi purifiée doit le rester. Le blasphème est donc en général prohibé. On ne sait pas ce qu'il en était à Orléans, mais c'est un des mots d'ordre de Jeanne d'Arc en 1429. Une ordonnance contre les jurements, blasphèmes et autres vices est criée et placardée en place publique à Sancerre par les protestants. Et l'exemple, on a des exemples très remarquables d'ordre moral à Rhodes, où le grand maître Pierre d'Aubusson prend des mesures terrifiantes. Hein. Ainsi, deux jeunes hommes eurent débat et questions ensemble, pour laquelle chose ils furent jugés à être pendus au gibet et furent menés jusqu'au montoir de l'échelle. Et là, à tous deux, leur fut pardonné, et depuis, il n'y eut plus ni débat ni question durant le siège. Hein. Tout le monde s'aime parce que la moindre dispute, hop, au gibet. Cinq semaines plus tard, le 7 juillet, on fait un cri public dans la ville pour interdire le blasphème. Et peu après, un jeune compagnon qui jouait au dé, perd et renie Dieu. Il est aussitôt dénoncé par ses compagnons, jugé, confessé, pendu. Conclut l'auteur du journal, tout le peuple était désormais en si grand amour l'un à l'autre que s'ils eussent été frères de père et de mère. C'est l'union sacrée par la terreur. Mais c'est un objectif que l'on retrouve dans tout siège. Il faut absolument que la cité ne possède plus qu'une âme et que celle-ci soit purifiée pour éviter le sort des villes pécheresses dont la Bible donne des exemples fameux. Alors, toutes ces mesures représentent en fait un ordre qui est fragile et éphémère, l'ordre du chaos. Et à la fin du siège, qui voit la retraite de l'ennemi ou son entrée triomphale dans les murs, marque le début d'un retour à l'ordre ou d'un nouvel ordre. Le siège est donc traumatique, il laisse des marques à la fois sur le paysage et dans les esprits. Premier effet, on est un rétrécissement de l'espace et du champ de vision. 15e siècle, les faubourgs indéfendables commencent à disparaître. Les Orléanais les ont brûlés eux-mêmes, la Trémouille se charge de ceux de Dijon et interdit ensuite de les reconstruire, même en période de paix. À Rhodes, on abat toutes les églises suburbaines et avec les progrès de l'artillerie, il faut partout développer une enceinte bastionnée précédée d'un immense glacis nu comme le dos de la main. Et si le mouvement est le même partout, il va concerner toutes les villes d'Occident, en fait, il est beaucoup plus traumatique lorsque c'est fait dans l'urgence alors que l'ennemi approche. En cas de victoire, on commémore la résistance, ce qui passe avant tout par un cadre religieux, diverses formes d'ex-voto. Alors, je vous en avais montré deux, hein, le tapisserie votive du siège de Dijon en 1513, ou le tableau votif du siège de Rhodes qui était destiné à Notre-Dame de Paris. La forme la plus usuelle demeure, cela dit, la messe anniversaire avec procession. C'est une telle manifestation que l'on voit sur la tapisserie votive de Dijon. En fait, ce que l'on voit, c'est plus la procession après le siège que celle du siège, mais enfin, peu importe, l'une renvoyant à l'autre. On en a d'autres exemples. On a un défilé avec une pucelle en armes pour célébrer Jeanne d'Arc, qui a été remise à la mode pour les touristes. On a également à Beauvais défilé de la Saint-Angradem, qui est l'occasion d'une fête annuelle conduite par les femmes, vu leur conduite héroïque pendant le siège. Ce sont elles qui mènent la procession. Dans le domaine des commémorations, Orléans se distingue particulièrement, puisque très tôt après le siège, vers 1434, on composa un mystère du siège, une immense pièce de théâtre de type hagiographique, actuellement connue par un remaniement tardif, mais quand même plus de 20 000 vers. C'est un cas unique. Pour aucun autre siège médiéval, on ne possède ne serait-ce que mention d'une œuvre similaire, mais c'est dû certainement à la personnalité de Jeanne d'Arc, considérée comme une sainte à cette époque-là. Enfin, le mystère est hagiographique. Alors, en cas de chute, une cité peut connaître des sorts variés. Bon, je passe immédiatement sur la question du sac avec ses atrocités, ainsi que sur les villes qui changent de maître de manière sereine, si j'ose dire, en payant tribut, en sauvant les meubles. Hein. En réalité, il semble que la plupart du temps, il y a ensuite un travail de reconstruction, beaucoup plus que de commémoration, ce qui fait que ça ne laisse pas forcément tant de marques que ça. La prise d'une cité peut servir cependant d'exemple. Et l'on note à partir de la fin du XVe siècle une tendance à la destruction méthodique. C'est le cas de Dinan, 1466, de Liège, 1468, ça c'est les Bourguignons. Plus tard de Thérouanne, deux fois rasée par les impériaux en 1513 et 1553. Les Turcs font la même chose à Belgrade en 1521. Le traumatisme est immense dans ces cas-là et les cités ont du mal à repartir. Dinan ne retrouvera jamais sa splendeur. Thérouanne, qui fut capitale régionale et archevêché, est actuellement un village insignifiant. Dans d'autres cas, le vainqueur impose un ordre nouveau. Les Ottomans ont par exemple l'habitude de massacrer la population et de repeupler avec des populations déportées d'ailleurs. Et ils imposent au passage leur loi. Les Anglais, de leur côté, tendent à créer des colonies continentales. C'est le cas de Calais en 1346, plus tard Darfleur en 1415. Ils chassent une bonne partie de la population originelle pour la remplacer par de bons Anglais. Dès l'arrivée d'Henri V à Harfleur, ce sont 2000 femmes, enfants et indigents qui sont expulsés de la ville, pourcentage très considérable car ce n'est pas une grosse ville. Et un officier anglais est chargé de redonner les maisons abandonnées à des Anglais. L'installation d'un nouveau maître passe par un certain nombre de symboles, dont beaucoup concernent le temps. Henri V fait brûler les archives municipales d'Harfleur, c'est-à-dire qu'on repart à zéro. Les catholiques enlèvent l'horloge et les cloches de Sancerre, là encore c'est la maîtrise du temps et de l'espace sonore. Les Turcs remplacent les cloches des églises par les cris des muédines. Il s'agit dans tous les cas d'établir une nouvelle temporalité dans la cité conquise. Alors pour conclure, désolé je crois que j'étais un peu trop long aussi, j'ai cherché à montrer ici que le siège d'une ville, loin d'être un événement anecdotique, correspondait au contraire à un traumatisme majeur dans la conscience d'une population donnée. Le siège bouleverse non seulement la vie quotidienne, mais la perception même du temps, et il trouble ainsi les différents paysages qui constituent le cadre de vie. Le paysage urbain, puisqu'il est marqué par la destruction des faubourgs, un rétrécissement du champ de vision, le champ olfactif, puisque l'on vit désormais dans les remugles de la surpopulation, de la poudre noire, des excréments, de la pourriture et de la mort, le paysage sonore avec le détraquement des sonneries de cloches et les déflagrations de l'artillerie, l'ambiance extraordinaire et surnaturelle de la période obsidionale est propice à toutes les angoisses, à tous les cauchemars, et c'est sans doute cet aspect qui rend l'issue du siège, au-delà des simples aspects polyurcétiques, infiniment labile, irrationnel, aléatoire, et il y a donc une véritable rupture de temporalité.
Je vous remercie. Eh bien, merci. Non, vous n'avez pas été trop long, parce que c'était passionnant. Bon, nous pouvons nous donner une dizaine de minutes là, pour poser des questions, apporter des compléments, ou demander des explications.
Par rapport au propos d'ouverture, on retrouve cette même idée de modification de centre de gravité. Et ça se passe pareil à l'échelle de la population, semble-t-il. Ce qui pose après la question de savoir comment ça se passe, si ça se passe pareil en temps de guerre, quand ça se prolonge très longtemps. Ça, c'est autre chose.
Bah, plus le siège se prolonge, plus les problèmes s'aggravent et plus on a des phénomènes aberrants, je dirais.
Donc oui. Pas seulement au niveau des sièges de villes, mais en temps de guerre. Est-ce qu'en temps de guerre, à l'échelle d'un territoire, les échelles de perception se modifient? Est-ce que le centre de gravité se modifie? Je pose la question comme ça. Je ne sais pas.
Pour aller peut-être dans le même sens, le colonel Goya a ce matin insisté sur le fait que le point décisif est peut-on faire quelque chose et fait-on quelque chose, donc les ordres, etc. Alors la question peut se poser à l'occasion d'un siège, bon les soldats, enfin les gendarmes, mais la population civile est-elle dans un état d'impuissance ressentie, bien entendu, ou au contraire, est-elle ou peut-elle se considérer comme acteur dans le siège? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que moi, j'ai un souvenir d'enfance, j'ai subi des bombardements en 44 surtout. C'est atroce en ce sens qu'on est dans une cave et on entend le sifflement des bombes qui tombent. Et comme ce bruit s'amplifie, vous avez l'impression que ça va vous tomber pile sur vous. C'est vraiment très désagréable et vous ne pouvez rien faire. Bon. Là, il y en a. Enfin bon, peu importe. Donc,
non, les soins. J'ai pas de DCA, moi. Là.
C'est typique. Enfin, c'est vraiment central. Les gens ont-ils le sentiment qu'ils peuvent faire quelque chose ou non? Et c'est tout à fait décisif.
C'est une question de mobilisation de la population. Alors, j'en ai montré des exemples. Il y a des cas où on a une garnison qui s'installe dans une cité pour la défendre contre l'avis de la population. Ça, on en a de Melun, par exemple. La population ne suit pas en réalité tous les sièges des années 1420. Mais dans d'autres cas, on a une mobilisation très forte de la population. Donc il y a le service de guet, il y a le fait que tout le monde est enrôlé dans la défense de la cité. Cela dit, pour le bruit des bombes qui tombent et les caves, on a ça. À Dijon, le gouverneur dit que tous les Dijonais sont allés se réfugier dans des caves. Et à Rhodes, dans les moments de pire bombardement, où il n'y a rien à faire sur les murailles, en fait, les gens vont essayer de trouver des refuges dans les caves aussi. Il y a cette idée. Mais il y a toujours un guet, une mobilisation générale donc de tout ce qui peut porter une arme, y compris les religieux. Mais, ouais. Et on met très en avant dans tous ces récits le rôle des femmes, qui est l'exemple même en fait, du temps extraordinaire, le moment où les femmes prennent les armes.
Ce sont elles aussi qui, comment dire, subiraient les pires des conséquences en cas de prise de la ville. Est-ce que ça apparaît?
Oui, il y a la scène du viol qui est caractéristique dans ces discours. Voilà.
Les enfants tués, les bébés fracassés, non, ça n'arrive pas, ça. À Anvers, le siège d'Anvers, c'est pas votre période, mais enfin, c'est quoi, c'est 1571, quelque chose comme ça. Enfin,
oui, pas dans ce boulot, fin 16e. Ouais. Non, mais bien sûr, tout le monde est convaincu, ne serait-ce que par la diffusion de rumeurs, dont on ne peut pas dire si elles sont fondées ou pas. On peut partir de l'idée que les hommes d'armes qui ont libre cours font ce qu'ils veulent. Mais en même temps, quelle est la part du fantasme et de la réalité? Je ne trancherai pas. Ils en sont tous convaincus, c'est ça qui est important. Ils sont tous convaincus que toutes les femmes sont violées, qu'il y aura un massacre général. Ça leur suffit. Ça leur suffit. Dans le cas de la prise de Dinan, par exemple, la ville est prise, 1466, le duc de Bourgogne est dans le coin. Il avait juré de détruire la ville. À ce moment-là, les soldats, puisqu'on va détruire la ville, commencent à piller et à violer les filles. Et le futur Charles Téméraire, qui est sur place, dit « mais il n'en est pas question, c'est pas ça ». Il commence à pendre des soldats. Donc il est calme, ça les calme là aussitôt, donc la population est épargnée. Et puis l'ordre, ils ont beaucoup hésité, et puis l'ordre vient « oui, on va détruire la ville ». À ce moment-là, on laisse faire, donc les filles sont violées, les maisons sont pillées, et le feu prend et ils regrettent parce qu'ils n'ont pas pu piller correctement, la ville est incendiée contre leur gré. Oui, c'est bien dommage parce qu'il y avait beaucoup de bonnes marchandises à.
Le siège de la Valette. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Oui, ça c'est 1571.
Combien?
71, oui. Attendez, je confonds toujours avec les Pentes.
C'est plus tard que ça, je crois.
Les Pentes, c'est quoi?
Ça c'est 71. Les Pentes. La Valette, ça a été construit entre 73 et 85.
Non, c'est pas la Valette, c'est le siège de Malte. La Valette est construite après le siège de Malte.
C'est après le siège
de Malte. Le siège de Malte, je dis, oui.
Non, il me semble que c'est avant, c'est 1566, je crois.
Oui, c'est plus récent.
Oui, c'est ça, oui. Très riche, oui.
C'est bon. Oui, il y a également dans le sud de la France, il y a les copies contemporaines de l'époque, justement.
Alors,
vingtaine de tableaux.
Le siège de Malte est extrêmement bien illustré. Il y en a à Rome, il y en a partout. Parce que les hospitaliers, et ça commence en 1480, ça commence avec le tableau du siège. Ont conscience tout à coup qu'ils ne peuvent plus gagner cette guerre sans faire une propagande en Occident. Et donc, ils vont commander une série d'œuvres littéraires, mais également artistiques, pour commémorer leur victoire et faire venir l'argent absolument vital. Ils ont besoin de cet argent. Alors, ce tableau a par exemple été commandé pour être exposé dans le cœur de Notre-Dame de Paris. Et les chanoines de Notre-Dame de Paris, en voyant arriver cette scène de massacre, tout ça, disent « Mais c'est quoi ? C'est pas un tableau d'église. » Donc, ils le refusent, ils se battent avec le roi, puisque Louis XI voudrait que ce soit là, et ils obtiennent que le tableau ne soit pas exposé dans l'église. Ce qui montre qu'en 1480, c'est une scène de représentation qui n'est pas considérée comme conforme à la religion. Un siècle après, ça a totalement changé. Le siège de Malte est représenté dans toutes les églises d'Occident. Je pense, par exemple il y a on le voit également en République tchèque. À Prague, il y a une très belle représentation du siège de Malte. Il y en a partout. Parce que ça fait désormais partie d'une propagande, d'une guerre qui est conçue comme sanglante et inexpiable contre les Turcs. Mais ces images qui sont adressées à tout le monde ne sont qu'un des aspects de cette propagande qui passe également par un tas de textes apologétiques et surtout par des campagnes d'indulgence. Parce que c'est comme ça qu'on... des hommes et du matériel, ils l'ont assez facilement. C'est l'argent qui leur manque.
Il y avait pour le siège de Calais, je crois qu'ils avaient carrément vidé la ville et mis des Anglais à la place.
Oui, mais toute la population a été expulsée.
Voilà. Pendant plus d'un siècle. Hein, après.
Deux siècles.
Oui, deux siècles.
1558, la reprise. Ouais.
Monsieur Dabi, je vous donnerai la parole après. Monsieur Dabi, là.
Oui, voilà. Donc, sur le. Si j'ai bien compris, la spécificité de la période, c'est que les villes elles-mêmes sont un objectif militaire, parce qu'aujourd'hui, elles ne le sont plus. Exactement, puisque les batailles ont lieu en dehors. Et à l'époque grecque, par exemple, une ville est un... Non, mais c'est pas un espace qui est complètement fermé. Enfin, bon, la différence, par exemple, avec l'époque grecque, c'est qu'une ville est fortifiée et imprenable. Donc elle est très rarement assiégée. Le siège en lui-même est quelque chose d'un peu spécial à la période. Donc, est-ce que la fragilité psychologique de certaines villes est connue et influe ? Est-ce qu'on va plutôt aller vers une ville qu'on sait diviser ? Est-ce que la dimension psychologique est intégrée à la campagne militaire ? Voilà, oui.
Non, le choix d'objectif est stratégique. Hein. Je veux dire, là, Rhodes, c'est la capitale des hospitaliers, les Turcs veulent les liquider. Dijon, c'est la ville qui est face aux Suisses sur la route de Paris. Thérouanne, c'est le point de jonction des Anglo-impériaux en 1513. Non, il y a des objectifs déterminés à l'avance, plus ou moins. Parfois, ça cafouille, hein, mais Harfleur, c'est la porte d'entrée du Royaume de France. Calais aussi, les deux villes sont conçues comme ça dans les sources anglaises. Non, il y a des objectifs très précis. Alors, à l'occasion, ils peuvent faire un crochet pour prendre une ville dont on sait tout à coup qu'elle n'est pas défendue ou pas défendable. Mais il n'y a pas de, à ma connaissance, il n'y a pas d'hésitation entre deux points éloignés parce qu'il y en aurait une qui serait psychologiquement plus faible. Et ils le sauraient pas et prennent en considération l'état des fortifications et l'état de la garnison. On sait que dans telle ville, il n'y a pas de garnison.
Madame Taylor.
Je suis intriguée par cette affaire de faire la guerre la belle saison uniquement. Est-ce que c'est pour des raisons purement utilitaires, pratiques, au fond, qu'on a abandonné un siège à la fin de la belle saison, sachant que la ville elle-même, normalement, devait tomber, si j'ose dire, naturellement, dans quelques semaines. Donc c'est bizarre que... est-ce que c'est vraiment strictement pour des raisons... Et à partir de quand est-ce qu'on a... commencer à prolonger au-delà de la belle saison les sièges de
Oui, alors attendez, là, j'ai donné une règle qui souffre des myriades d'exceptions. Hein, globalement, les armées qui partent en campagne n'ont pas de logistique. La logistique, c'est vivre sur le pays. C'est-à-dire qu'ils partent à la belle saison et, si possible, outre les problèmes d'organisation interne, après que les moissons ont été faites ou au moment où elles vont être faites, ce qui leur donne du pain pour l'été. Hein, c'est le moment où les troupeaux sont dehors, où ils sont gras et tout ça. Donc, ils mangent tout sur un rayon de 30 km. Et quand la bise est venue, ils se trouvent assez dépourvus en réalité, parce que non seulement ils ont tout saccagé autour d'eux, donc il n'y a plus rien à gratter, mais en plus, tout ce qui est au-delà de 30 km, les gens ont foutu le camp dans d'autres villes, dans d'autres points fortifiés, en emportant chaque fois avec eux les troupeaux et les moissons, y compris le blé moissonné vert, hein, dont on a de multiples exemples. C'est-à-dire que à ce moment-là, est-ce qu'ils ont une logistique capable? Par exemple, les Anglais, lorsqu'ils se lancent dans la conquête de la Normandie, Harfleur, c'est presque un an de siège, et il y a des bateaux de ravitaillement qui viennent d'Angleterre. Il a décidé de prendre la ville et il va la prendre parce qu'il a un ravitaillement qui est assuré. Les Suisses, en 1513, ils sont partis les mains dans les poches. Et en fait, on est en septembre, ben, il n'y a plus rien. Thérouanne, en 1513, ils prennent la cité, mais l'objectif, c'était d'attaquer Paris, en réalité. Seulement, Picardie, à l'automne, en 1513, tout se transforme, tout, c'est pluvieux, tout se transforme en boue, c'est-à-dire la cavalerie a du mal à circuler, les chariots avec l'artillerie, c'est foutu, ça n'avance plus. Et en plus, ils n'ont rien à manger, quoi. Donc, c'est des armées... de toute façon, au bout de 3 mois, ils sont malades. Donc, c'est des armées qui fondent, hein, qui fondent naturellement, désertion, maladie, mort. La maladie étant d'ailleurs le stade avant la mort, hein, en général. On a cette déliquescence des armées. C'est-à-dire, on a beaucoup de mal à maintenir sur pied longtemps une armée. Pour des questions qui sont financières, bon, on est incapable de la payer. Donc, ils pillent, mais enfin, c'est qu'un pis-aller. Et puis, de toute façon, une fois qu'on a pillé tout, il n'y a plus rien à piller. Et ensuite, il y a un vrai problème de ravitaillement. Et on n'a aucune armée capable de maintenir une logistique longtemps sur place. Le succès des Anglais, c'est... Ah oui, les grandes compagnies, c'est des gens débandés.
Oui.
C'est-à-dire, ils vivent sur le pays, et une fois qu'ils ont tout détruit, tout rançonné, ils vont un peu plus loin. Mais c'est une logique de prédation. Et alors, de temps en temps, on essaye de les récupérer. Hein. Le cas le plus fameux, c'est du Guesclin. On lui donne un peu d'argent. Il emmène les grandes compagnies en Espagne, hein, des merdenzisich, et ils font n'importe quoi en Espagne. Et au pire, c'est que ces salauds reviennent. Hein, mais,
Bon. Eh bien, ce sera le mot de la fin et la transition vers le déjeuner. Bon. Merci à tous les quatre.